France Inter, le 18-20.
Au téléphone sonne ce soir, comment éviter les noyades qui viennent chaque été endeuiller des centaines de familles? Avec le retour des beaux jours, c'est un risque que l'on a tendance à minimiser. Or, le nombre de morts par noyade a bondi ces dernières années, surtout chez les plus jeunes. C'est ce que montre la dernière enquête de Santé publique France, publiée ces derniers jours. 600 décès par noyade rien que pendant l'été 2018, de juin à septembre, ce qui fait quand même 5 morts par jour en moyenne, un millier de morts en tout chaque année. Et on oublie souvent les rescapés des noyades qui restent pour certains handicapés à vie. Alors ce soir, on va tenter de comprendre pourquoi il y a autant de victimes et de voir ce qu'il serait possible de faire pour éviter ces drames. Car il n'y a pas de fatalité, tout le monde peut apprendre à nager, encore faudrait-il s'en donner les moyens. Or, en matière d'apprentissage et de pratique de la natation, les inégalités ont la vie dure, d'autant que l'école manque cruellement de moyens pour apprendre aux enfants à nager. Résultat, un Français sur 7, je pense à peu près, ne sait pas nager. Pourtant, il est possible d'apprendre, et cela à tout âge. Pour parler de l'apprentissage et de la pratique, deux invités avec nous ce soir. La ministre des Sports et ancienne championne du monde de natation, Roxana Maracineanu, rebonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous battez, on le rappelle, depuis des années pour que les enfants apprennent à nager dès le plus jeune âge. Vous avez présenté en avril dernier un plan de lutte contre les noyades baptisé Aisance Aquatique. On va évidemment en parler. Avec nous également Axel Lamotte, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire général adjoint du SNMS, le syndicat national professionnel des maîtres nageurs sauveteurs, c'est bien ça?
C'est ça, le SNPMNS, exactement.
Voilà. Un peu compliqué votre sigle, mais enfin bon, on va y arriver. Et puis on attend évidemment vos questions à tous au standard de France Inter 01 45 24 7000.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Et tout de suite, un premier appel, c'est Nicolas qui nous appelle de Rochefort-sur-Loire. C'est dans le Maine-et-Loire, c'est bien ça, Nicolas?
C'est bien ça.
Bienvenue.
Bonsoir
à vous.
Madame la ministre.
Bonsoir
à tous. Donc je vous appelle de Rochefort-sur-Loire, donc à proximité d'Angers. On est en bord de Loire et c'est un territoire qui est traversé par de nombreux cours d'eau. Cette année, cet été, on marquera, le territoire avait été frappé par une tragédie il y a 50 ans. Où 19 enfants avaient trouvé la mort noyée dans un bras de la Loire. Et donc une piscine avait vu le jour au début des années 70, une piscine qui faisait partie du plan des 1000 piscines à l'époque. Et aujourd'hui, depuis 2015, on assiste à la fermeture programmée de notre piscine. C'est une piscine qui progressivement, la commune a fait son maximum pour essayer de la maintenir, mais c'est une piscine qui contenait un bassin extérieur, un bassin intérieur, et cette année, le bassin intérieur, par exemple, est fermé. Les enfants ne pourront pas apprendre à nager dans cette piscine. Et donc, ça pose de nombreuses questions, justement, sur le maintien de cette piscine, parce qu'elle a grand besoin d'une rénovation. Jusqu'en 2015, il y avait 1500 personnes qui apprenaient à nager dans cette piscine, 1500 enfants. Et aujourd'hui, même les créneaux scolaires sont menacés, puisqu'on est obligé de faire 25 km pour avoir une demi-heure de natation de temps en temps. Et donc, c'est pas du tout satisfaisant. Donc, cette semaine, les enfants ont réalisé un clip avec l'appui de leurs parents pour interpeller Madame la Ministre pour que vous nous apportiez votre soutien sur le maintien de cette piscine, parce qu'on essaye de solliciter toutes les bonnes forces. Mais on se rend compte que la tâche est très difficile. Et ce qui compte pour nous, c'est que nos enfants puissent apprendre à nager, que ça soit dans le cadre scolaire ou dans un cadre familial ou autre. Mais on tient énormément à cette piscine à l'échelle locale parce que le territoire correspond vraiment à la nécessité d'apprendre à nager.
Merci beaucoup Nicolas pour cette entrée en matière. Roxana Maracineanu, vous êtes directement interpellée par Nicolas et puis par ce clip auquel ont participé les enfants.
Oui, et de manière très émouvante d'ailleurs.
Vous l'avez vu ?
Bien sûr, je l'ai vu. Et les enfants qui, sous la forme d'un chant, dans leur piscine vide, m'interpellent sur la fermeture de ce bassin. Et effectivement, en plus des images que je vois, un bassin tout à fait adapté à la méthode et à la démarche qu'on a qu'on aimerait promouvoir et qu'on sait tout à fait possible de promouvoir aujourd'hui pour l'apprentissage des plus jeunes. En grande profondeur. Donc, on va étudier ce cas attentivement déjà pour voir si effectivement il peut bénéficier de financement. Et j'aimerais bien pouvoir effectivement, en venant à Rochefort-sur-Loire, illustrer notre engagement dans le plan aisance aquatique sur la démarche, le contenu vraiment de comment on peut apprendre à nager aux enfants. Et puis derrière aussi un investissement sur les équipements parce qu'il faut évidemment du dur. On peut aujourd'hui, vu les fortes chaleurs, et on l'évoque l'évoquait avec, enfin Nicolas l'évoquait sur cette partie, sur le fait qu'on va aller de plus en plus vers des points d'eau pas surveillés, et il faut absolument que les personnes, les enfants, les adultes y aillent en toute sécurité et en pleine autonomie et en possession de leurs moyens, parce qu'avec, voilà, clairement avec le réchauffement climatique, c'est ce qui va se passer de plus en plus. On va sortir des piscines, on va aller partout se baigner. Et c'est des environnements qu'on connaît pas, parce que c'est vrai qu'en France, on a la chance d'avoir beaucoup de piscines par rapport à d'autres pays. Mais c'est des piscines maintenant qui sont pleines et pas forcément toujours utilisées de manière optimale.
En tout cas, pour répondre à Nicolas, il y a des chances quand même que vous alliez sur place et que vous puissiez faire un geste pour que cette piscine puisse perdurer.
Oui, je l'annonce en direct que je vais me rendre là-bas pour pouvoir voir avec eux l'avenir de leur piscine, mais au-delà de ça, bien sûr, voilà, illustrer le fait qu'on va s'engager pour d'autres piscines, d'autres équipements en France.
Merci beaucoup, Roxana Maracina, à nous. Axel Lamotte, la question qui est posée par Nicolas, c'est celle des équipements, et c'est une question primordiale.
Tout à fait, c'est une question essentielle. Alors effectivement, il évoque le programme des 1000 piscines. Il s'en est construit 880 de mémoire dans les années 70. C'était des petites piscines que je qualifierais de quartier ou de petites villes, ou voire de village. Et c'est effectivement la bonne dimension. Vous savez qu'on a un gros problème de territorialité aujourd'hui. On incite les collectivités à se regrouper. Elles construisent de nouvelles piscines qui sont plus ludiques, avec des jacuzzis et des tas d'autres choses. On y fait plein de choses, on y apprend beaucoup moins à nager. Et du coup, comme le disait très justement Nicolas, elles se retrouvent de loin. Et donc on est obligé de prendre la voiture et d'aller se rendre à une piscine à une demi-heure de voiture. Donc c'est vraiment pas intéressant. Et de plus en plus de piscines. Il y a un autre exemple qu'on m'a communiqué à Aumont, par exemple. C'est la même chose, il y a eu un regroupement de communautés, de collectivités, et ils ont fermé déjà la piscine d'Aumont, pareil, 14 000 habitants, des milliers d'enfants apprenaient à nager là-bas, et voilà.
Il y a des
exemples inverses.
Oui, il y a des inégalités territoriales en matière
d'équipement. Tout à fait, des inégalités territoriales. Ben, je pense que c'est comme le sujet d'actualité sur les hôpitaux. On essaye de centraliser, de faire des piscines de plus en plus grandes, qui sont toujours de plus en plus éloignées d'un certain nombre d'écoles, etc.
On essaye de faire des économies, c'est ça que vous voulez dire?
Oui, on fait des économies, et puis la société évolue également. On souhaite faire plus de distractions, mais je pense que l'essentiel, effectivement, comme le disait Madame la Ministre, c'est d'apprendre d'abord à nager aux enfants, de les perfectionner ensuite, hein, qu'ils aillent vers des clubs, qu'ils nagent de mieux en mieux, et que les parents apprennent aussi, par exemple, à sauver leurs enfants.
Alors on va évidemment parler de tous ces aspects-là pendant cette émission, mais on va d'abord repartir au standard du téléphone sonne. Thomas nous appelle, Thomas qui est papa d'une petite fille de 8 ans qui voudrait apprendre à nager ou qui a déjà appris à nager. Bonsoir Thomas.
Bonsoir.
Dites-nous tout.
Merci à France Inter pour vos émissions. Donc je suis papa d'une petite fille de 8 ans, donc qui est scolarisée dans l'école publique. La piscine est très proche de l'école, hein, elle est à moins de 1 km. Et là où je suis un petit peu choqué, c'est que donc mon enfant est allé à la piscine dans le cadre de l'école, enfin des cours scolaires, hein. Il ne s'agit pas de nappes ou de choses comme ça, c'est vraiment sur le temps scolaire. Elle est allée en petite section de maternelle, en moyenne section de maternelle, grande section, CP, CE1 et CE2, et il n'y a pas de vrai apprentissage de la natation. À chaque fois, l'objectif, c'est ne plus avoir peur de l'eau, être à l'aise dans l'eau, jouer. Donc, tout ça, c'est bien joli, mais je trouve qu'au bout de plus de 50 heures à la piscine, il serait temps d'apprendre formellement aux enfants à nager. Voilà.
Merci, Thomas. Je peux juste vous demander à quel endroit vous êtes ?
Je suis dans l'Essonne, dans une commune qui s'appelle Linas.
Merci Thomas pour ce témoignage. Roxana Maracine à nous, ça vous étonne ce que vous venez d'entendre?
Alors ça va de pair avec d'autres parents que j'ai entendu parler de la natation scolaire, où effectivement, même si on démarre plus tard, parce que c'est vrai que là c'est une exception, aller dans le cadre de l'école déjà dès la maternelle en piscine, c'est assez rare en France, on démarre en général au CP. Et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un résultat qui n'est pas satisfaisant dans le cadre de la natation scolaire, parce que souvent, avec le transport, les vestiaires, les enfants, ils sont 20 minutes dans l'eau, c'est un peu l'usine, les maîtres nageurs n'arrivent pas non plus à gérer l'enchaînement des enfants, ils ne les connaissent pas forcément, le projet éducatif n'est souvent pas discuté avec les maîtres nageurs de la piscine et l'éducation nationale. Donc ce qu'on a initié, nous, au ministère, c'est de mettre tout le monde autour de la table et de parler vraiment de contenu. Aujourd'hui, il y a des plans, différents plans qui existent, le plan « J'apprends à nager » au ministère des Sports, la natation scolaire dans le cadre scolaire, et il faut qu'on discute, qu'on pose ce problème, qu'on se mette tous autour de la table, avec les maîtres nageurs, avec l'éducation nationale, avec le ministère des Sports, avec les associations aussi, les éducateurs des associations, et qu'on décide qui fait quoi. Moi, je pense que dans le cadre scolaire, arriver très tôt, le plus tôt possible, à être à l'aise dans l'eau, et à l'aise dans l'eau, il faut qu'on s'entende sur qu'est-ce que c'est. Pour moi, c'est en grande profondeur être capable de parcourir une certaine distance, et qu'après l'école soit aussi en capacité de laisser la main, de passer la main aux associations, aux maîtres nageurs, pour qu'on puisse effectivement passer sur de l'apprentissage des nages, et qu'on puisse passer sur du sport, et qu'après au collège on revienne sur ce sport-là et qu'on le développe dans le cadre jusqu'au baccalauréat comme une discipline sportive scolaire, mais que la prérogative, eh bien on ait atteint cette prérogative qu'un enfant puisse traverser une piscine à l'âge de 6 ans en grande profondeur, sans frites, sans brassard, et qu'on se mette tous autour de la table pour qu'on y arrive et qu'on décide de la méthode à employer.
Parce que ça fait partie, j'ai cru comprendre, du socle commun des connaissances de savoir nager.
Oui, il y a lire, compter, mais on aimerait aussi, effectivement, nous, au ministère des Sports, que ce soit pris plus à bras le corps par l'éducation nationale, que ce soit affirmé comme une prérogative vraiment inscrite dans la loi. Il y a une loi sur l'école qui vient de passer. Moi, je suis arrivée un peu tard au ministère des Sports pour pouvoir pousser un peu plus M. Blanquer là-dessus, mais on va le faire par la suite, et c'est pour ça qu'on a associé à cette réflexion, évidemment, l'éducation nationale et le ministère des Sports. C'est une mission que m'avait confiée le Premier ministre quand il m'a rencontré en juillet. Maintenant, en tant que ministre, j'ai envie de le mener à bout.
La difficulté, c'est quoi? C'est qu'il y a l'école d'un côté, puis que l'apprentissage de la natation, Axel Lamode, vous qui êtes du syndicat des professionnels des maîtres nageurs sauteurs, ça relève de votre compétence à vous, ça relève pas en fait, des maîtres d'école, c'est ça?
En fait, l'éducation nationale considère que les enseignants, les instituteurs et les institutrices sont capables d'apprendre à nager aux enfants. Et parfois, quand la collectivité a peu de moyens, ils ne mettent pas à disposition les maîtres nageurs, sauf pour assurer la sécurité. Du coup, c'est les parents bénévoles qui tentent d'apprendre à nager aux enfants. Des parents bénévoles dont on ne sait pas grand-chose sur leur savoir-faire. Et du coup...
Or, apprendre à nager, c'est un métier, c'est ça.
Maître nageur, c'est effectivement notre métier. On essaye de défendre nos compétences auprès de l'éducation nationale. Ça n'a pas toujours été facile. Ça s'est amélioré ces 2-3 dernières années. Et effectivement, ils ont reconnu qu'avec le diplôme et une carte professionnelle délivrée par le ministère des Sports, on avait toutes les garanties de moralité pour s'occuper des enfants dans les meilleures conditions. C'est vrai que d'apprendre à nager avec un maître nageur, ça va toujours plus vite que d'apprendre à nager avec des gens qui ne sont pas des spécialistes.
Combien êtes-vous de maîtres nageurs sauveteurs en France?
En France, il y a 18 000 maîtres nageurs qui passent leur révision. Cela dit, dans les collectivités, il y en a moins, hein, parce qu'il y a des gens qui ne travaillent pas comme maîtres nageurs à plein temps. Et aujourd'hui, nous estimons qu'il manque 5000 professionnels sur le marché de l'emploi parce que beaucoup de personnes qui ne sont pas maîtres nageurs font semblant de pratiquer le métier sans carte professionnelle et sans diplôme.
Et pourquoi est-ce qu'il manque autant de monde? C'est parce qu'il n'y a pas de volontaires? C'est parce qu'on ne forme pas les gens? C'est parce que le système ne fonctionne pas? Quel est le problème?
C'est les gouvernements successifs qui ont mis en place des réformes parfois chaotiques. Hein, pour exemple, en 2007, il y a eu une réforme du brevet professionnel jeunesse, éducation populaire et sport qui délivrait des compétences en animation aquatique, mais qui ne donnait pas le titre de maître nageur. Donc pendant 3 ans, on n'a pas formé de maître nageur. Et puis, de 1975 à 1985, on formait à peu près 1500 à 1800 maîtres nageurs par an. Tous ces gens-là vont partir à la retraite. Et du coup, on va avoir un trou d'air terrible dans la capacité d'encadrement qu'on a en France. Donc, il va falloir former vite des maîtres nageurs.
Alors, Xana Maracina, nous, ça vous interpelle, ça aussi?
Oui, parce que ça vient de l'eau, tout ça. Hein. L'eau, c'est un élément qu'on doit avoir en partage. Parce que c'est vrai que, on parlait tout à l'heure d'autonomie des personnes âgées, ça peut passer aussi par de l'aquagym dans l'eau, de l'aquabike, on l'a dit tout à l'heure, d'une animation dans les piscines qui, finalement, n'a pas à voir avec l'apprentissage de la natation. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de réenchanter aussi le métier de maître-nageur. J'en parle facilement puisque j'en suis une. Je suis maître-nageur de formation et il faut que qu'on puisse reparler de pédagogie aussi dans la formation des maître-nageurs, qu'on puisse libérer aussi de l'espace dans les piscines pour qu'on puisse apprendre à nager, qu'on puisse aussi faire des équipements peut-être spécifiquement dédiés à certaines pratiques aquatiques et d'autres équipements qui vont devenir plus ludiques parce que, comme vous l'avez dit, il y a besoin aussi de ces grands équipements avec des toboggans où on peut s'amuser, venir en famille, avoir des espaces pour pouvoir vivre le sport en famille et en même temps avoir des équipements que j'appelle utiles, utiles pour apprendre à nager, utiles pour le troisième âge parce qu'aussi à un autre âge de la vie, on a aussi besoin, peut-être grâce à l'apprentissage et à la sensibilisation à la natation, de pouvoir retrouver une forme physique adéquate pour pouvoir vivre plus longtemps et en bonne santé. Donc apprendre à nager, c'est vrai, c'est important pour les tout-petits, mais c'est important aussi pour les adultes et les personnes plus âgées.
On repart au standard de France Inter, c'est Laetitia cette fois qui est au bout du fil. Bonsoir Laetitia.
Oui, bonsoir.
Bienvenue à vous.
Merci pour votre écoute. Voilà, notre piscine d'Aumont, une ville de 14 000 habitants, merci à Axel Lamotte d'en avoir parlé un petit peu, a fermé en février pour cause de travaux. La région Hauts-de-France constate justement sur notre territoire que nous possédons deux fois moins de bassins par habitant que la moyenne nationale. Malgré ce constat, malgré le plan Nager en Hauts-de-France de la région, malgré le plan aisance aquatique annoncé par Madame la ministre des Sports, malgré l'augmentation des noyades, nos élus locaux ne réagissent pas. Nous sommes en contact avec la région, nous avons contacté Madame la ministre des Sports et les élus locaux. Nous avons même créé un collectif, une pétition et même une chanson qui a été faite par le collectif. Donc moi, ma question ce soir serait pour Madame la ministre. Donc Madame la ministre, avez-vous la possibilité de faire bouger nos élus locaux en leur faisant comprendre l'importance d'une piscine pour le savoir nager, pour éviter les noyades, pour le lien social intergénérationnel, pour contrer la sédentarisation et pour bien d'autres conséquences.
Merci beaucoup Laetitia pour cette interpellation. Là aussi, il y a une chanson, hein, décidément, la natation et puis la chanson, ça a l'air d'être deux passions qui vont ensemble. Roxane Maracineanu, qu'est-ce que vous lui répondez à Laetitia ?
Bah, je suis ravie finalement de cette interpellation parce qu'en fait, je vais pouvoir vraiment illustrer la pertinence de l'Agence nationale du sport qu'on vient de créer. L'Agence nationale du sport, c'est aussi donner plus de voix aux citoyens pour que, au moment où on va aller dans la conférence régionale du sport qu'on va installer dans chaque région grâce à cette agence, eh bien qu'on puisse poser ces sujets-là sur la table. Et évidemment, l'idée, c'est de reprendre aussi de la part de nos concitoyens leurs préoccupations. Et d'interpeller du coup les collectivités, les élus, les fédérations qui sont présentes dans cette région, et puis aussi le monde économique, c'est ça l'Agence nationale du sport, autour de sujets qui concernent les Français. Donc ce sera un moyen de donner voix et de donner écho à cette préoccupation. Et comme nous, État, on a cette impulsion avec ce plan aisance aquatique. Si on était resté comme d'usage dans nos bureaux dans le 13e arrondissement à Paris à faire des plans,
mais est-ce qu'il y a
des
moyens?
On n'aurait eu jamais accès, bien sûr,
dans votre plan,
voilà,
pour aider les
chiffres,
les collectivités.
Je vais vous en donner. Aujourd'hui, il y a 15 millions d'euros qui sont dédiés spécifiquement pour les piscines. Alors évidemment, c'est pas avec 15 millions qu'on va construire des piscines. Ça coûte très cher, une piscine. Mais là, comme on veut passer sur des petits équipements utiles, ça va déjà coûter un peu moins cher. Et puis surtout, notre argent doit être un levier pour lever d'autres financements dans les collectivités, mais aussi auprès des acteurs privés, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'entreprises privées qui s'intéressent à cette thématique. Et aujourd'hui, voilà, sans tabou, on peut aussi dire que ce soit dans l'équipement ou dans l'accompagnement des dispositifs, on va faire aussi appel à des fonds privés pour pouvoir aller satisfaire les Français aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de raison que les entreprises ne puissent pas contribuer à la politique qu'on met en place.
Et j'ajoute qu'on a beaucoup de messages qui vont dans le même sens que ce que nous disait Laetitia, là, quelqu'un qui nous parle de la piscine de Luchon qui a fermé. Il y a plein d'endroits où c'est comme ça. Axel Lamotte, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Hein.
Tout à fait, c'est dangereux de fermer des piscines. Alors effectivement, on comprend que le financement soit un problème. Moi, je vais trouver une solution au financement dans la théorie inverse du ruissellement.
Ah, hein,
puisqu'on,
allez-y.
On a diminué la dotation globale de fonctionnement en direction des collectivités qui sont obligées de faire des économies. Et du coup, par ruissellement, on ferme des piscines. Et du coup, on n'apprend plus à nager, on se noie de plus en plus. Hein, j'ai fait un petit calcul avec les journées d'hospitalisation. J'ai les chiffres de 2017. 2804 euros une journée. 2500 noyades l'année dernière.
Quand vous dites noyades, vous comprenez dans noyades à la fois les personnes...
Toutes les personnes qui ont été hospitalisées, d'après Santé publique France.
Hein. Donc les rescapés, blessés...
2500 noyades, ça fait 7 234 320 euros par jour. Sur une semaine, 540 240 euros. Si on le fait sur un mois, ça fait 217 millions d'euros. Vous voyez qu'on a de l'argent. En plus, on éviterait des drames. Donc, il faut effectivement que la ministre puisse avoir des leviers de ce type-là pour engager un vrai plan d'urgence d'apprentissage de la natation. Nous organisons, nous, au niveau du syndicat national professionnel, depuis 11 ans, les journées de prévention de la noyade parce que les chiffres nous alarment depuis plus de 10 ans. Donc, il existe un vrai problème. Nous le faisons de façon strictement bénévole. Ça coûte rien à personne. Là, aujourd'hui, France Inter nous donne la parole. Donc, on va donner des conseils de prudence. On les envoie vers le site du SNP où il y a tous les conseils de prudence, la façon de se comporter en piscine, en rivière, en lac et sur les différents littoraux français. Donc, effectivement, il faut d'abord que les gens prennent conscience que c'est un grand plaisir, mais ça peut être aussi un grand danger. Il y a cette prise de conscience. Et puis après, il faut des moyens. Formons des maîtres nageurs et engageons un plan d'urgence d'apprentissage de la natation.
Si on veut rentrer un petit peu plus dans le détail concernant les causes des noyades, Axel Lamotte, c'est quand on ne sait pas du tout nager ou quand on va nager à un endroit qui est dangereux par rapport à la pratique qu'on peut avoir. C'est quoi les principales raisons? Ou c'est parce que son état de santé n'est pas adapté?
On a aussi sur le site des flyers en fonction des âges, hein, jusqu'à 10-11 ans. Il faut que les parents, quand les enfants se baignent, il faut que les parents soient dans l'eau avec l'enfant. Hein, on ne les surveille pas de loin, on ne prend pas l'apéritif avec les voisins pendant qu'il y a une piscine. On est dans l'eau avec les enfants. Quand c'est la baignade, c'est la baignade. Quand ce n'est pas la baignade, effectivement, on isole la piscine ou le lieu où il y a de l'eau. Et même quand le téléphone sonne, si le bébé est dans l'eau, on ne le laisse pas tout seul, bien évidemment. Ensuite, les 13-25 ans, on va effectivement les inciter à ne pas boire d'alcool, pas de prendre de produits stupéfiants et pas de se lancer de défis pour aller conquérir l'Amérique à la nage. Et puis ensuite, il y a les adultes. Hein, les 25-50 ans, c'est pareil, il faut qu'ils soient raisonnables. Nous, on leur conseille de nager souvent par deux, hein, qu'ils nagent par deux, comme ça, quand il y en a un qui a une difficulté, l'autre peut alerter, hein, parce que la noyade, c'est très silencieux, souvent. Et puis, pour les personnes du troisième âge, on leur conseille de faire un examen médical avant de partir en vacances, parce que quand on nage au-dessus d'une piscine, l'eau est à 28-29 degrés, on se retrouve en mer, il peut y avoir des courants froids. Dans les lacs, c'est pareil, hein, il peut y avoir des remontées d'eau froide et il peut y avoir des surprises. Voilà. Donc, il y a des conseils de prudence qui existent et je pense qu'on éviterait déjà un certain nombre de drames.
Roxane Maracineanu, nous juste un petit mot par rapport à ce que disait Axel Lamotte tout à l'heure sur le rôle des parents, parce que vous, qui vous êtes beaucoup occupé des plus petits, vous insistez là-dessus, les parents doivent absolument être associés.
Oui, de la même manière que vous avez fait aussi sur votre site une vidéo tutoriel pour pouvoir expliquer tout ça aux parents. Nous avons fait au ministère des Sports 7 petits épisodes pour pouvoir démocratiser ce que j'appelle les primo-apprentissages et expliquer un peu aux parents ce qu'on peut faire avec son enfant, parce que c'est vrai, il y a toutes ces règles de sécurité, de surveillance qui sont extrêmement importantes. Et il y a aussi autre chose qui est le gain en compétences. Alors c'est valable pour le troisième âge qui a appris à nager à la tête hors de l'eau. Et puis évidemment, quand on est à la mer et qu'on se prend une vague, on boit la tasse, du coup on panique et on va très vite vers des choses fatales. Mais il y a aussi le fait d'être à l'aise, et quand on parle d'être à l'aise, ça veut dire être capable d'aller sous l'eau, ressortir, prendre son air, repartir, se tourner sur le dos, sur le ventre et ne pas avoir l'eau comme ennemi en fait, mais comme ami, et pouvoir se sentir bien, occuper tout l'espace de manière la plus adéquate possible. Et ça se vit, ça s'apprend, et les parents, au même titre qu'ils peuvent enseigner à leur enfant à faire du vélo, à leur apprendre la première manière de tourner les jambes sur des pédales, eh bien, il y a des gestes, des premiers gestes qu'ils peuvent faire avec l'enfant. Et un des premiers, c'est de ne pas avoir peur de mettre la tête sous l'eau avec son enfant. À partir du moment où on va sous l'eau, on s'immerge avec l'enfant, l'enfant, il comprend qu'il flotte, et ça va être plus facile d'aller vers un apprentissage accompagné par un professionnel. Donc c'est ça qu'on a voulu donner sur ces tutoriels. Et puis derrière, c'est de dire aussi, la meilleure des préventions, c'est finalement ça, d'être à l'aise dans l'eau et l'apprentissage de la natation, parce que derrière, les bouées, les frites, c'est très vite perdu en fait, et quand on perd une frite ou un brassard, eh bien c'est fatal, parce que c'est pas un gain, une garantie Il faut continuer à surveiller ses enfants, même avec des brassards et des bouées.
Alors, il y a une question justement sur la peur de l'eau. C'est Jacqueline qui nous la pose. Bonsoir Jacqueline, et je pense que ça ne concerne pas les enfants, votre question. Bonsoir Jacqueline.
Non, absolument pas. D'ailleurs, ce n'est pas une question, mais un simple témoignage. Je voulais simplement dire que j'ai été le témoin de l'apprentissage de la natation d'une amie qui, bien sûr, elle était âgée déjà de 65 ans, voire 70, je ne me le rappelle pas exactement. Et elle a, en présence du maître nageur, elle pouvait mettre la tête sous l'eau, aller dans un grand volume d'eau, enfin, vous savez, le bassin où l'on plonge, etc. Mais toute seule, il n'y avait rien à faire. Et elle avait une peur panique de l'eau qui n'a pas été détectée, prise en compte par le maître nageur. Et c'est sur la formation des maîtres nageurs que je voulais revenir, mais je vois, j'ai entendu qu'on l'avait évoqué, ce problème. C'est vrai que ils sont pas toujours aptes à compenser, si vous voulez, cette peur, panique des personnes âgées qui veulent apprendre à nager.
Merci Jacqueline pour...
Voilà.
Merci beaucoup. Vous avez fini?
Oui.
Merci beaucoup Jacqueline pour ce témoignage. Axel Lamotte, est-ce qu'on peut se débarrasser de la peur de l'eau à tout âge? Est-ce qu'on peut apprendre à nager à tout âge?
Oui, je crois que c'est comme en musique, il y a des gens qui prennent un violon et qui font tout de suite de la musique, et il y en a qui font du bruit pendant des années. Donc, les capacités des uns et des autres sont tout à fait différentes, et la peur de l'eau, elle peut venir de très loin. Effectivement, comme disait la ministre, il faut commencer le plus jeune possible. Quand on commence plus tard, effectivement, on va moins vite pour apprendre. Mais je pense qu'après, c'est une question souvent de motivation. Quand on veut vraiment atteindre des objectifs, moi je me souviens, j'ai appris à nager une petite dame qui allait faire ses courses, qui avait 7 enfants, et à la retraite, elle a voulu apprendre à nager. Elle ne connaissait comme schéma corporel que ses mains, parce qu'elle se servait que de ses mains. Ça a été très long pour s'allonger dans l'eau, par exemple, hein, parce qu'on a une position de terrien, on est souvent à la verticale. Quand on est allongé, c'est dans le lit. Et du coup, ça a mis du temps. Mais elle avait une volonté terrible, cette dame, et elle a mis plus de 6 mois à apprendre à nager. Et puis après, elle est revenue régulièrement et elle a continué à progresser. Elle est aujourd'hui à l'aise. Donc voilà, il faut persévérer.
Il faut persévérer. Et puis c'est vrai que la natation, Roxana Maracineanu, à nous, il y a aussi la question du rapport au corps. C'est quelque chose de particulier. C'est pas un sport comme les autres.
Vous savez, cet accompagnement dont parle cette dame et dont vous êtes le témoin ici, parce que c'est un vrai accompagnement des personnes. Je pense que voilà, ce métier-là, c'est un métier riche où on peut accompagner les personnes dès le plus jeune âge, à un âge plus avancé aussi. Et c'est aussi un métier un peu de psychologue quand on le fait avec passion et avec envie, parce que quand on parle de la peur de l'eau, c'est des peurs qui viennent de loin. Vous savez, je dis toujours, l'enfant, il était dans le ventre de sa mère, entouré d'eau. Donc on a un lien vraiment particulier avec cet élément, et je crois que les maîtres nageurs passionnés qui sont capables de mettre ça en avant arrivent à faire des miracles avec des personnes aussi qui pensent ne jamais pouvoir y arriver et qui vont y arriver si elles sont bien accompagnées.
Alors justement, on a un maître nageur au Standard de France Inter. Bonsoir Denis.
Bonsoir.
Vous appelez de Meurthe-et-Moselle, c'est bien ça? De Tomblaine, si je lis bien?
Non, pas tout à fait. Je suis à l'heure actuelle positionné sur Carnon, parce que je représente donc également la Fédération nationale des métiers de la natation et du sport. Donc à ce propos, je salue Madame la Ministre, les auditeurs de France Inter, et puis mon collègue Axel du SNPMNS, qui a déjà largement évoqué tous les points de convergence sur lesquels on se positionne en même temps qu'eux.
Vous êtes un peu en famille, là, ce soir. Hein,
tout voilà, ça. Un peu en famille. Donc, on représente 6500 professionnels des métiers de la natation qui sont adhérents à la fédération. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, nous avons conclu un certificat d'aptitude à l'exercice de la profession dans l'Hérault, qui est un département qui a été particulièrement touché par la noyade il y a quelques années lors de la période caniculaire. Et nous avons donc sensibilisé nos collègues sur ce qui était en train de se passer au ministère des Sports dans le cadre du plan des anses aquatiques, parce que nous participons largement à ces débats. Et personnellement, je suis chargé par Madame la Ministre et puis sa directrice des Sports de travailler plus particulièrement sur un des chantiers du plan des anses aquatiques, c'est-à-dire accroître le vivier de maîtres nageurs sauveteurs. Donc on s'y emploie. On n'est pas toujours d'accord, mais je vais dire qu'à l'heure actuelle, il y a des solutions qui pointent en ce moment. Et effectivement, il y a un certain nombre de remédiations qu'il faut apporter. Voilà. Je souhaitais rendre Madame la Ministre attentive sur une chose. Je me permettrais presque de la tutoyer en lui disant bonsoir Roxana, parce que on se connaît dans la
Donc
petite
vraiment
piscine,
en famille, hein,
dans la,
je disais.
Voilà, dans la petite mille piscine de Fessenheim, il y a environ 15-20 ans, je ne sais plus exactement, mais si mes souvenirs sont exacts, mais j'ai eu l'occasion de vous faire passer le PSE1 et le BNSSA avec Nicolas Stromeyer et toute votre équipe. Vous voilà. Vous en souvenez?
Entre Orinois, là, carrément, ce soir, voilà. C'est parfait.
Voilà, alors cette piscine, Roxana, aujourd'hui, elle a été complètement arrachée. Elle n'existe plus. Les élus ont pris une orientation politique totalement contraire à la population, aux médias, tout ce qui pouvait être évoqué. Et aujourd'hui, nos enfants n'apprennent plus à nager. Et effectivement, on se retrouve dans le paradoxe qu'a signalé Axel. Ces enfants fréquentent des grands ensembles de piscines à 7 à 17 millions d'euros. Ils font des distances qui génèrent un temps absolument pharaonique par rapport au temps consacré à l'enseignement de la natation scolaire. Et nos élus se contentent de dire, oui, ils apprennent toujours à nager, mais l'action de natation qui était enseignée dans cette petite piscine et qui leur permettait d'avoir un savoir nager au sortir de la sixième n'est absolument plus atteint aujourd'hui et on est tout simplement dans un écueil où les enfants ne bénéficient que de saupoudrage. Ça c'est un petit peu le maître nageur en colère qui s'exprime.
Et ben vous avez entièrement raison de le faire, voilà. Denis. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Denis. Oui.
Est-ce que je peux juste vous donner un mot sur le plan de l'organisation professionnelle,
hein? Pas trop long.
Voilà. Et Axel a évoqué pas mal de choses. Il y a un point sur lequel nous souhaiterons rendre attentif, Madame la Ministre. C'est sur le fait que les statistiques de France Santé qui ont évoqué l'accroissement du nombre de noyades, aujourd'hui, on bénéficie encore d'une certaine, allégeance. Pourquoi? Parce que ces pauvres enfants qui se sont noyés et qui ont entre 3 et 5 ans se noient malheureusement à la maison, à domicile, avec toutes les structures qu'installent les parents, toutes ces piscines qui croient à domicile, et c'est surtout là qu'il faut porter l'accent sur la prévention. Mais par contre, attention, tous ces enfants qui n'apprennent plus à nager à l'école aujourd'hui, avec les besoins de formation qu'on a au niveau des maîtres nageurs, l'éducation nationale qui n'arrive pas à assumer ses missions, je pense que dans les prochaines années, on aura à s'attendre à des chiffres qui vont largement augmenter et qui vont interpeller un peu plus de monde qu'aujourd'hui, parce que ceux qu'il faut vraiment secouer et éveiller sur le problème du plan de l'aisance aquatique, c'est vraiment nos élus qui, eux, préfèrent voir construire des grands ensembles avec des piscines qui sont la vitrine de leur passage en qualité d'élu, plutôt que de créer une petite piscine,
Denis,
sur laquelle on peut accueillir des enfants dans la ruralité et presque en leur apprenant à nager dans les meilleures conditions telles qu'on les avait avant.
C'est mille fois, Denis, merci, vous rejoignez ce qu'a dit Axel Lamotte tout à l'heure. Et moi, je vais rajouter quelque chose, c'est que vous parlez beaucoup de l'apprentissage pour les enfants, mais il y a aussi beaucoup d'adultes qui se plaignent de ne pas avoir de créneau pour aller tout simplement pratiquer la natation. Donc Roxana Maracineanu, à nous, on en revient à ce qu'on disait au début, des équipements, des créneaux, c'est ça dont on a besoin.
Oui, mais des équipements spécifiques. J'interviens encore là-dessus parce que nous on a décidé d'avoir cette politique, même quand on refait un bassin, quand on est en rénovation, en construction d'un grand ensemble, effectivement, il y a parfois des piscines qui existent pour que les élus se fassent plaisir aussi, et fassent plaisir aussi aux habitants, mais aussi, effectivement, c'est un chouette truc pour rayonner politiquement. Nous, au ministère des Sports, on a choisi de vraiment subventionner ces équipements utiles au sein des grands ensembles, avec des prérogatives liées à la méthode qu'on veut proposer, à la démarche d'apprentissage qu'on veut proposer, liées vraiment au contenu délivré par les maîtres nageurs et par les associations sportives. Et puis, une action aussi de formation vers les professeurs des écoles, vers les parents. Quand ils passent l'agrément pour accompagner leurs enfants à la piscine, on a envie de les former pour qu'ils puissent vraiment accompagner les maîtres nageur et être utile dans cet apprentissage. Et puis effectivement, travailler aussi sur les piscines privées, les pisciniers avec eux, c'est la prochaine étape de tout ça, parce qu'il faut aussi les impliquer, parce que beaucoup d'accidents ont lieu à la maison, et il faut que quand on construit une piscine, pourquoi pas envisager une formation à domicile pour les enfants, pour qu'on puisse être en sécurité dans sa piscine
à la maison
familiale.
Voilà, des questions très pratiques qui nous arrivent sur franceinter.fr. Axel Lamotte, celle-là, elle est pour vous. C'est Caroline qui nous interroge sur la noyade sèche. En chahutant dans l'eau, les enfants risquent-ils la noyade sèche? Y a-t-il eu des cas de décès? On nous demande aussi, quand un enfant boit la tasse, que faut-il faire?
Bah, de toute façon, il faut éviter de chahuter quand on est au bord de l'eau. Hein. Il faut profiter des plaisirs
de
l'eau.
Vous connaissez les enfants.
Oui, mais là c'est aussi
un problème d'éducation. Ça, c'est un maître nageur qui parle. Hein.
C'est aussi un problème d'éducation. Moi, j'ai travaillé dans plusieurs piscines du département 93, donc on sait ce que c'est que le chahut. Et parfois, c'est dramatique. Hein. Le dernier a été un jeune homme qu'on a ranimé parce que quelqu'un a fait un salto arrière, lui a mis les deux pieds dans la poitrine, il est en arrêt cardiaque. Donc voilà, le chahut, ça peut être extrêmement dangereux. Donc,
mais on peut jouer.
Quand on est au bord de l'eau, bah, le mieux c'est de jouer dans l'eau. Voilà. Hein. Ensuite, bah, effectivement, il faut toujours, c'est ce que nous recommandons, se baigner sous surveillance.
D'autres questions sur Twitter. Ça, c'est Lionel qui nous pose la question. Des enseignants ont plusieurs fois rapporté que nombre d'enfants en école ou collège obtiennent une dérogation pour ne pas aller à la piscine pour des raisons religieuses. Roxana Maracine à nous, vrai ou faux ?
C'est un des aspects pour lesquels je prône l'apprentissage de la natation et d'ailleurs du sport dès le plus jeune âge, parce que quand on est en maternelle, il n'y a pas encore ces problématiques-là qui touchent en plus principalement les filles. Donc voilà, plus tôt on sait nager, plus tôt on sait faire du sport, plus tôt on sait utiliser son corps à bon escient, et moins ces problématiques-là vont se poser, d'ailleurs pour des raisons culturelles, mais aussi de puberté classique entre les garçons et les filles. C'est peut-être mieux de démarrer très tôt quand il n'y a pas ces problématiques de corps et de proximité des corps, et que derrière, voilà, le sport devienne tellement une habitude que finalement on ne se pose pas ces questions-là.
Question aussi sur les bienfaits de la natation pour la santé, Roxana Maracine à nous. J'ai vu que la mortalité globale des nageurs, elle est plus basse que celle des non-nageurs, par exemple.
Oui, bien sûr, vous m'aurez encore pendant longtemps à France Inter.
Non. On en est ravis.
Non, mais c'est vrai que l'eau, comme je le disais tout à l'heure, c'est le meilleur élément pour reprendre une activité physique. Après une maladie, après un parcours de guérison, avec un certain poids, quand on arrive à ne plus pouvoir se déplacer pour aller courir, faire un footing, eh bien c'est important de pouvoir démarrer dans cet élément qui est doux, où il y a de la pesanteur, et on peut faire toutes sortes d'activités. Comme on l'a dit, aujourd'hui, l'animation en piscine s'est beaucoup développée. Moi, perso, je pense que le meilleur moyen, c'est la natation et d'être capable de nager et pouvoir se dépenser également, et peut-être plus que quand on fait de l'aquagym. Mais il y a toutes sortes d'activités qui sont proposées et je pense que c'est un super sas pour reprendre une activité physique à partir d'un certain âge et derrière passer sur d'autres sports, sortir de la piscine. Mais c'est le début pour le troisième âge et pour les adultes, en fait, pour se remettre à l'activité sportive.
Axel Lamotte.
Je peux en parler de l'intérieur. Hein. Oui. J'ai eu une prothèse totale du genou. J'ai récupéré une vitesse terrible. Hein. J'ai été dans l'océan faire du body surf. Bon, c'est parce que je savais quand même correctement nager. J'ai récupéré en 4 mois et avec une prothèse, je cours.
Formidable. Donc,
voilà, c'est un exemple, hein, mais il y a plein de gens qui font de la rééducation dans l'eau. Vous savez qu'on pèse 3 fois rien dans l'eau. Hein. Alors, on ne divise pas le poids du corps, parce que sinon, on sortirait, on ferait 3 grammes. Mais on garde le même poids, mais c'est...
Voilà, sensation n'est pas la même, du coup.
La sensation n'est pas la même, et puis on est très très à l'aise, on peut se mouvoir.
Voilà, c'est bon,
à tous
les âges, on aurait pu parler aussi des bébés nageurs.
Bien sûr, et les bébés nageurs avec cette particularité encore qui tient à l'eau, qui fait qu'on peut le faire en famille. C'est une des premières activités où les parents et les enfants se retrouvent aussi au même niveau. Vous voyez, quand vous êtes dans l'eau, bah, vous avez le bébé à portée de bras, à portée des yeux. Et d'ailleurs, avec mon collègue secrétaire d'État Adrien Taquet, il va lancer un plan de protection de l'enfance. Et voilà, en mettant la natation à 3 ans, c'est aussi un moyen de détecter les violences sur les enfants, faites aux enfants, parce qu'ils vont être en maillot de bain plus tôt. Et puis, c'est un moyen aussi de parler d'accompagnement à la parentalité via cette activité de bébé nageur.
Un grand merci, Roxana Maracine, à nous d'être restée avec nous pendant ces 2 heures. Merci aussi à vous, Axel Lamotte. Et soyez tous prudents avec le retour des beaux jours et de la chaleur la semaine prochaine. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Ils se reconnaîtront.